revenons sur Vandebure et on se rappelle qu'en 2018 et aussi en 2019, nous avons fait l'expérience d'un combat acharné et méthodique de la part des autorités visant à anéantir toute forme de contestation. Sur le territoire, nos espaces ont été militarisés. Nous avons été dépossédés de nos lieux de vie, expulsés du Bois-le-Juc et visités de manière répétée et illégale dans la maison de la résistance par les forces de l'ordre qui nettoient à chaque fois au Karcher le peu d'intimité qui nous reste. Nos gestes et nos paroles ont été criminalisés. Nos amitiés et notre détermination à lutter contre le plus gros projet industriel européen ont été traduites judiciairement par une instruction comme étant des associations de malfaiteurs. Bataille après bataille, nous avons dû faire face, sur le terrain, dans nos idées comme dans nos cœurs, à une stratégie de l'épuisement et de la division. Mais nous ne cessons pas de combattre. D'abord, en restant solidaires et lucides quant aux poursuites judiciaires employées contre nous. Car si lutter contre un projet d'enfouissement de déchets radioactifs imposé depuis 25 ans, alors que tous les signaux sont au rouge, si ça fait de nous des malfaiteurs, alors oui, nous sommes toutes et tous des malfaiteurs, des malfaiteuses, des malfaiteureux. Ensuite, nous allons montrer qui se cache derrière ces masques de malfaiteurs qu'on nous a enfilés de force. Depuis fin 2018, en poursuivant le travail de fond avec notre cycle de conférences dans tout le Grand Est, en chérissant nos liens et en créant de nouveaux avec l'Atomic Tour dont on vous a parlé sur Canal, partout en France, en tissant la toile de la résistance en continu, et en août, avec la fête des burlesques, autour de théâtres et de projections et de conférences. Et donc, en fin septembre, nous nous mobilisons. Qu'on se le dise, il est nécessaire de faire une démonstration de notre motivation qui ne s'est pas évaporée, de notre détermination qui ne s'est pas étiolée. Au contraire, 2019, c'est une année historique qui rappelle combien nous sommes acteurs et actrices de notre histoire. Reprenons nos souffles, mêlons nos airs respectifs pour les transformer en tempêtes et laissons nos corps surfer sur ces vents favorables qui nous rassembleront en ce début d'automne. Créons notre propre courant. L'année 2019, c'est pour le projet une phase administrative, une année blanche pour ce projet diabolique. Mais malgré les failles scientifiques et financières et éthiques, sociales et environnementales, la machine avance dangereusement. La déclaration d'utilité publique pourrait être déposée durant cette fin d'année 2019 et la déclaration d'autorisation de création en 2020. Sur le terrain, des travaux de très grande envergure, les raccordements électriques, l'alimentation en eau, les raccordements ferroviaires et routiers, vont venir modifier le territoire en profondeur, afin que tout soit prêt pour la construction du centre s'il venait à être autorisé. Alors, faut pas rêver, faut pas prendre des vessies pour des lanternes, nous ne doutons pas un instant qu'il le sera. Si tous ces travaux sont réalisés. Pour nous, ces travaux qui sont dits préparatoires ne sont rien d'autre que le feu vert déguisé de la construction du centre. On n'en veut pas et on va continuer de le dire et de le crier.
Thank you.
À Toulouse aussi, on lutte. Les Gilets jaunes luttent et continuent. Voici leur dernier communiqué. Appel issu des rencontres contre la répression organisées à Toulouse les 6 et 7 juillet 2019. La justice nous attaque, attaquons la justice. Des mois de lutte, de blocage, de manifs sauvages, de solidarité, pour en finir avec ces conditions de vie pourries, pour que tout le monde vive bien. Nous sommes entrés en lutte et nous pouvons en être fiers. Le mouvement est une force collective, mais face aux juges, on se retrouve souvent seul. Et c'est comme ça qu'ils veulent nous avoir, par l'isolement. En effet, ce que la répression cherche à casser, ce sont nos liens, l'organisation de la lutte. De la même manière, ils ont attaqué les ronds-points. Ils cherchent à nous séparer par tous les moyens. D'ailleurs, un point commun à beaucoup de procès, c'est qu'on nous reproche d'être ensemble dans la lutte. Associations de malfaiteurs, groupements en vue de ceci ou cela. Mais nous pouvons nous défendre, être une force collective face à la justice. S'attaquer à un ou une d'entre nous, c'est s'attaquer à tout le mouvement. Les juges, les procureurs et parfois aussi les avocats racontent n'importe quoi. Nous méprisent. Ils agissent ainsi car ils défendent l'ordre social. Ils agissent ainsi car ils ont eu peur de perdre leur statut de classe dirigeante. Cette société de misère et d'exploitation, nous n'avons pas à rougir de vouloir la faire tomber. Nous sommes fiers de la lutte que nous menons depuis des mois. Nous avons relevé la tête et les juges ne nous feront pas baisser les yeux. Nous ne les laisserons pas faire leur sale boulot dans l'ombre. Nous appelons donc à organiser la résistance contre la répression, à occuper le terrain de la défense et à n'abandonner personne. Pour ça, nous proposons de créer partout des commissions de défense collective afin de se défendre ensemble, de se mettre en lien et de se coordonner. La vague des procès qui s'annoncent en automne, sont autant de batailles à mener. Toi, un ou une de tes camarades gilets jaunes, passe en procès. Alors contacte-nous. Nous ne nous en remettons pas aveuglément aux avocats. Ils sont des conseillers techniques, mais pas des représentants. Réfléchissons ensemble à des stratégies de défense. Défendons le mouvement. Libérons tous les prisonniers et les prisonnières. Vive la révolution. Le 5 octobre sera une journée de manifs et d'actions pour les prisonniers et affirmer notre soutien à toutes les personnes en procès. Alors, vous pouvez joindre le site, donc Défense Collective par 2, donc tout attaché et par 2, et le chiffre 2, Défense Collective par 2, @riseup, hein, riseup, .net et le téléphone 07 58 25 22 19. Je répète, le téléphone de la défense collective des Gilets jaunes 07 58 25 22 19. Maintenant, je vais reprendre des thèmes que j'avais abordés la semaine dernière quand j'avais des très gros problèmes techniques et j'étais venue vous faire un agenda quasiment les mains dans les poches puisque mon informatique m'avait lâché. Alors je vais vous rappeler les nouvelles de la mine de Salao en Ariège et je vais corriger aussi les erreurs que j'avais pu glisser, en particulier sur des questions financières. Alors, la mine de Salao. La justice a annulé le permis de recherche. C'est un article de Mediacité signé Romain Bizeul. Coup d'arrêt pour l'exploitation de la mine de Salao. Le vendredi 28 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de recherche exclusif dont jouissait la société Variscan Mines. En cause, les finances de la société. Le tribunal juge Variscan incapable de tenir sa promesse d'investir 25 millions, et pas 12 comme je vous avais dit, 25 millions d'euros nécessaires à l'exploitation de la mine et la gestion de ses déchets. Et la gestion de ses déchets, hein, c'est bien précisé. Il y a 2 ans et demi, le 21 octobre 2016, le secrétariat d'État à l'industrie Christophe Sirugue avait accordé ce permis dans l'optique de refaire de la France un pays minier. Alors, en plus de l'étain, du bismuth, du molybdène, du zinc, du plomb, du cuivre, de l'or et de l'argent, c'est le tungstène qui était particulièrement recherché à Salao. En 2012, quand le Bureau de recherche géologique et minière a évalué le potentiel minier français, Salao était apparu comme principal gisement de tungstène. Ce métal lourd, utilisé dans le domaine militaire, y avait déjà été exploité entre 71 et 86, avec des conséquences désastreuses pour l'environnement. Il y a eu près de 700 000 mètres carrés de déchets miniers qui ont été laissés dans la nature à la fermeture du site. Voyez un peu la pollution. Mediacité avait aussi évoqué la présence d'amiante, hein, rien que amiante, sur les lieux. Pour le directeur général de Variscan Mines, Michel Bonnemaison, ce n'est que du buzz. Il nie toute présence du matériau toxique. Quand 30 années après la fermeture de la mine, l'État a de nouveau ouvert la voie à son exploitation, une forte opposition locale a vu le jour. Plusieurs associations, Couflens Salao Demain, le comité écologique ariégeois, association Henri Pesera, toutes ces associations ont ainsi mené un recours devant le tribunal administratif de Toulouse afin d'annuler les autorisations. Mais ce n'est pas l'aspect sanitaire, mais bien le financier, qui a convaincu le tribunal administratif de revenir sur les autorisations préfectorales. Il ressort des pièces du dossier que la société Variscan Mines s'est engagée dans le dossier de demande de permis exclusif de recherche à consacrer un montant de 25 millions pour les travaux d'exploration. Toutefois, il n'est pas établi que la société Variscan Mines, dont l'actif s'élevait à la clôture de l'exercice 2014 à 2 050 000 euros, il n'est pas établi que cette société disposait à la date de l'arrêté attaqué des capacités financières propres pour mener à bien les travaux d'exploration qu'elle s'était engagée à réaliser. Et voilà, on est débarrassé de cette histoire de Salao. Je vais vous reparler aussi de l'atelier d'écologie politique, l'ATECOPOL, qui a été créé à l'automne 2018 et qui souhaite participer à la construction à Toulouse et en Occitanie d'une communauté pluridisciplinaire de scientifiques travaillant ou réfléchissant aux multiples aspects liés au bouleversement écologique. Pour tisser des liens entre des connaissances dispersées et réfléchir à la façon de les partager avec l'ensemble de la société, afin d'œuvrer avec elle aux moyens de réorienter notre trajectoire en changeant en profondeur les modes de fonctionnement socio-économiques actuels. L'atelier d'écologie politique réunit des chercheurs d'une très grande variété de disciplines et de quasiment tous les établissements de recherche du site toulousain. Parmi ses premières réalisations, il y a eu un séminaire ouvert au public, la publication de tribunes aussi sur des enjeux d'écologie politique, ainsi qu'une action en direction du milieu de la recherche, appelant à une réflexion profonde sur le positionnement des chercheurs. Tous les travaux de l'atelier d'écologie politique sont à suivre sur Facebook et sur Twitter. Et cet atelier a adressé, avec Mediapart, une lettre ouverte à la présidente de notre région, Madame Carole Delga, lettre que je vous avais lue la semaine dernière, sur un fond musical que je n'avais pas maîtrisé, et c'est pourquoi je reprends certains points de l'agenda de la semaine dernière. Alors reprenons cette lettre et adressons-nous à Madame Carole Delga. Ça date du 4 août 2019, c'est présenté par les invités de Mediapart, et voilà, nous ne voulons pas être les têtes de gondole d'une politique climaticide, déclare cet ensemble de citoyens dans une lettre ouverte à la présidente de leur région, Occitanie. Face à l'ambition de la région de devenir une destination internationale du tourisme, les habitants refusent la mise en tourisme de leur lieu de vie, au mépris de toute considération écologique. Alors, lettre ouverte, avec copie à Virginie Rosière, présidente du comité général, du comité régional du tourisme, Louis Villaret, président du réseau des grands sites de France, et Elisabeth Borne, ministre, comme chacun sait, de la transition écologique et solidaire. Chère présidente, voilà près de 2 ans que vous battez la campagne avec ce mot d'ordre très simple. L'objectif pour la région Occitanie est de faire partie du top 10 des destinations touristiques européennes. Ainsi, pour que la région ait l'insigne honneur de figurer aux côtés des îles Canaries ou de la Croatie, au palmarès des paradis touristiques, vous avez lancé un fonds de 100 millions d'euros. En partenariat avec la Banque européenne d'investissement, pour financer des infrastructures et soutenir l'initiative privée. Je répète, vous avez lancé un fonds de 100 millions d'euros en partenariat avec la Banque européenne d'investissement pour financer des infrastructures et soutenir l'initiative privée, afin que selon votre projet, la région Occitanie fasse partie du top 10 des destinations touristiques européennes. Mais surtout, vous menez une ambitieuse politique de marketing territorial fondée sur la labellisation de 40 grands sites Occitanie, aux intitulés poétiques Carcassonne et les cités du Vertige, Collioure en Côte Vermeille, Bastides et Gorges de l'Aveyron. Quel est le but de ce label ? Officialisé par la signature d'un contrat entre la région et les élus locaux. En devenant grand site Occitanie, ces endroits pittoresques seront accompagnés dans la montée en gamme de leur offre touristique. Ce qui leur permettra de servir, ce sont vos mots, de servir de véritables produits d'appel pour partir à la conquête de clientèles internationales et en particulier les classes moyennes des économies émergentes qui constituent des gisements de touristes pour les 15 prochaines années. En clair, il s'agit de passer d'un tourisme encore majoritairement régional à une destination internationale conçue pour les nouvelles bourgeoisies chinoises, indiennes, brésiliennes. Pour nous, habitants et habitantes d'Occitanie, cet objectif paraît quelque peu décalé. À l'heure où la crise climatique se précipite, le fait que l'économie régionale repose sur l'aéronautique et donc sur l'expansion du trafic aérien pose déjà problème. L'idée de la compléter par une politique touristique volontariste qui favorise encore l'hypermobilité et le trafic aérien. Tout cela témoigne d'une conception assez étriquée des sciences climatiques. Savez-vous que le tourisme, selon une étude récente de l'Université de Sydney, est responsable d'environ 8% des émissions de CO2 dans le monde? Ces dernières semaines, on a relevé dans la région des températures approchant les 46 degrés. Pour la première fois de leur vie, des agriculteurs de l'Hérault, de l'Aude ou du Gard ont vu leur culture se consumer sous les rayons du soleil. Est-ce bien raisonnable de tabler sur des prévisions globales de 2 milliards de touristes internationaux à l'horizon 2030? L'extrême vulnérabilité de l'économie touristique aux aléas climatiques n'impose-t-elle pas à elle seule de reconsidérer ce genre d'investissement? Demandons-nous plutôt comment on pourra cultiver la terre en Occitanie en 2030 et s'il y aura assez d'eau potable. Certes, ce projet met l'accent sur le développement d'un tourisme durable, responsable, voire d'un slow tourism. Mais cela nous semble plus correspondre à une logique de positionnement marchand par rapport au segment de clientèle visé qu'à une réelle prise en compte de ces enjeux. L'idée de base reste d'inciter des gens à parcourir 8000 km en avion pour leur refiler une balade en vélo sur le canal du Midi. Autre problème. Il se trouve que les lieux dont le label Grand Site Occitanie acte la mise en tourisme, ce sont nos lieux de vie. Ce sont des coins paumés ou des quartiers populaires où on a encore le droit d'habiter au milieu de vieilles pierres, près de la nature, sans être pris à la gorge par des loyers exorbitants. Ce sont ces endroits, de l'Aveyron à l'Ariège, ou parce qu'on y échappe un peu plus qu'ailleurs à l'exploitation économique, il reste possible d'innover. Entendons-nous, non pas pour développer des objets connectés et des algorithmes, des drones, des robots, autre spécialité régionale, non. Nous parlons d'un genre d'innovation proprement disruptif, au sens où il implique réellement une rupture avait le modèle économique et productif dominant. Comme dans d'autres localités semblables, c'est bien dans ces arrière-pays que depuis quelques décennies se réinventent agriculture paysanne, habitat écologique, artisanat, c'est-à-dire des formes de vie collective, des habitudes d'entraide et de partage, et une création artistique riche, quoique faite par des pauvres. Que se passe-t-il quand on met au milieu de tout ça un écriteau traduit en toutes les langues, disant « Destination touristique internationale incontournable » répercuté sur les plateformes de l'économie monde. On l'a vu avec les premiers grands sites Midi-Pyrénées qui ont commencé à lubéroniser nos campagnes. Les prix de l'immobilier flambent. La location saisonnière détruit l'offre locative à l'année. Les inégalités sociales se creusent. Les fermes se transforment en résidences secondaires. La mono-industrie touristique concurrence ou décourage d'autres activités moins rentables, mais infiniment plus valables du point de vue de l'intérêt général. Et bien sûr, entre les marchands de glace, les stands de tongs, il reste plus grand-chose de l'esprit des lieux. Petit rappel, au niveau national, les premières opérations grands sites ont été créées à la fin des années 70, justement pour tenter de sauver des sites ravagés par la surfréquentation. Parce qu'il est absurde d'exploiter nos gisements touristiques comme on exploite une mine, en les vidant de leur substance, lisait-on dans Le Monde en 1980. On a dressé en 78 une liste de 25 sites à la fois prestigieux et menacés. Ainsi naît ce qui deviendra le label « Grand site de France ». Dont le premier objectif est de préserver et restaurer les paysages fragiles et attractifs. C'est dire le cynisme de cette politique des grands sites Occitanie, qui, eux, vise explicitement l'inverse, augmenter la fréquentation touristique en valorisant des gisements insuffisamment exploités. Pour réaliser tout ceci, la région s'est donné les moyens d'une politique marketing offensive. Il s'agit, dans une ambition toute orwellienne, de construire sa nouvelle identité pour devenir une référence tant pour les habitants que les clientèles françaises et internationales. Nous voici, habitants, sommés d'incarner un concept de novlangue publicitaire. L'occitalité. Pourquoi occitalité? Parce que l'Occitanie, apprend-on sur le site de la région, doit être la marque des destinations qui incarnent le mieux l'hospitalité. Et la diversité de cette vaste région se retrouve centrifugée en une sous-culture occitane de cassoulet-canoë fondée sur le sourire, la convivialité, l'hédonisme. On trouvera difficilement meilleure illustration de ce que signifie marchandiser un territoire. Chère Carole Delga, notre sourire ne sert pas à ça. Nous ne voulons pas être les têtes de gondole d'une politique climaticide. En revanche, pour reprendre un mot d'ordre qui a résonné dans les rues de Barcelone ces dernières années, nous serions très heureux que l'hospitalité devienne la valeur clé de notre région. Investissons donc ces 100 millions d'euros pour améliorer l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés. Créons des commerces de proximité des ateliers de réparation et de dépollution, des coopératives agricoles et artisanales, où les nombreux nouveaux arrivants pourront travailler aux côtés des habitants de la région pour construire une économie plus digne des enjeux de la décennie à venir. Pour des détails complémentaires, on peut se reporter à l'appel à projet Grand Site Occitanie, cap sur l'innovation touristique, schéma régional de développement du tourisme et des loisirs de la région Occitanie, pages 7 et 26. Mélanie Duval et Christophe Gauchon, dans les annales de la géographie, ont aussi illustrer ce thème. Et cap sur l'innovation touristique, c'est le schéma régional de développement du tourisme et de la région Occitanie, à consulter donc page 5, et aussi le positionnement de la nouvelle destination de marque Occitanie sur tourisme-du-6-occitanie.com, si vous ne me croyez pas. Toujours à Toulouse, on peut se demander comment Toulouse pourrait mieux résorber les bidonvilles. Et je vous raconte ça à partir de l'article de Delphine Teillac, de Médiacité toujours, et je les remercie tous pour leur aimable et fructueuse autorisation. Delphine Teillac écrivait donc le 25 juin 2019 « Le Capitole serait une des premières municipalités à sortir d'une logique d'expulsion systématique des bidonvilles. Son dispositif d'accompagnement social permet d'extraire une partie des habitants de l'extrême précarité, jusqu'à une certaine limite. » Conte de fées toulousain. Il semble loin le temps où Mihail dormait à peine sur le sol, dans les rues de Toulouse, et fouillait les poubelles pour se nourrir. Ce jeune homme, aujourd'hui âgé de 25 ans, arrivé de Bulgarie en 2009 avec toute sa famille, raconte volontiers sa nouvelle vie, celle d'un résident français comme les autres, payant son loyer dans son T1 bis à Coulommiers, et sur le point d'obtenir son CAP de cuisine. Il y a 4 ans encore, Mihail vivait dans la boue et au milieu des rats, dans les campements du Ramier, puis de Montaudran. Je m'en suis sortie car j'ai jamais abandonné. Quand la mairie m'a proposé de l'aide, ça a tout changé, raconte-t-il, dans un français parfait. Après des années de vie à la rue et d'expulsions successives, Mihail et sa famille ont pu bénéficier d'une maison mise à disposition par la ville dans le quartier des Arènes et d'un accompagnement vers l'emploi. Mihail vole à présent de ses propres ailes. Depuis 2015, la mairie de Toulouse a lancé un programme afin de tenter d'en finir avec les expulsions de campements et de squats. Elle ne faisait que déplacer les problèmes. Nous avons donc travaillé à une solution à la fois humaine et pragmatique, explique Daniel Rouget, élu en charge des politiques de solidarité et des affaires sociales. Où en est-on aujourd'hui? Alors que la population des campements atteint 1 400 habitants à Toulouse, la municipalité annonce vouloir ouvrir un second village d'insertion, quartier du Palifica, avec des mobilhomes et un accompagnement social sur le modèle de celui de Greenfogel. Mais les riverains grognent. Sur les conseils des travailleurs sociaux et militants du collectif d'entraide et d'innovation sociale, le CEDIS, le choix est fait de mobiliser des logements vacants répartis de façon diffuse dans la ville. L'objectif étant de permettre une insertion durable des Roms de l'Union européenne, peuplant dans leur grande majorité des campements et des squats précaires de la ville. Depuis 2018, le dispositif est ouvert aux personnes extra-communautaires ayant le statut de réfugié. Pour résorber les bidonvilles, la mairie travaille en plusieurs étapes. Ces services sociaux rencontrent et recensent d'abord les personnes vivant sur un campement et leur situation administrative. Puis ils établissent des listes de bénéficiaires et leur notifient la date de l'évacuation. Le jour J, la ville ouvre un gymnase, distribue des clés d'appartement et affrète des bus pour y conduire les bénéficiaires. Au total, 150 logements sont ainsi mis à disposition avec le concours des bailleurs sociaux. Une fois les familles logées, un accompagnement social est assuré sous la houlette des associations France Horizon Occitanie et Solia, financées par l'État pour cette mission spécifique. Les bénéficiaires ont aussi accès à des cours de français et à de l'aide à la recherche d'emploi. En échange, ils s'engagent à participer au loyer et à entreprendre des démarches d'insertion. Les enfants doivent être scolarisés. L'accompagnement dure autant de temps que nécessaire. Certaines familles, comme celle de Mihai, sont suivies depuis 3 ans. Tout l'intérêt de ce dispositif est de s'inscrire dans la durée, souligne Gaëtan Cognard, directeur de France Horizon Occitanie, qui a accompagné 260 personnes en 2018. Dans 78% des ménages, au moins un membre de la famille a trouvé un travail. Selon la mairie, sur les 1100 personnes prises en charge entre 2016 et 2019, 489 personnes demeurent accompagnées. 330 environ ont eu accès au logement social de droit commun. Quelques 200 personnes sont reparties dans leur pays d'origine, de leur plein gré ou découragées, ou ont été exclues pour non-respect des règles et sont retournées à la rue. Il n'empêche, le programme montre des résultats encourageants. La population vivant dans bidonville a baissé de 60% en 4 ans. C'est la seule ville de France à avoir mobilisé autant de logements vacants pour une inclusion sur le long terme, souligne Manon Fillonneau, déléguée générale du collectif national Droits de l'Homme, Rome Europe. Il suffit néanmoins d'arpenter les rues de Toulouse pour remarquer que les campements n'ont pas tous disparu, et même qu'ils se sont multipliés. Si le nombre global de personnes vivant dans les bidonvilles baisse, des campements plus petits se développent depuis 2 ans. En juillet 2018, le DIHAL recensait ainsi 363 personnes y vivant encore. En février 2019, la mairie en comptait 767, vivant en bidonville ou en squat. Première raison. Selon la nationalité et le statut administratif, la ville n'est pas toujours en mesure d'agir. Il en va ainsi avec la centaine d'Albanais qui avaient établi ces derniers mois des abris de fortune sur l'île du Ramier. On touche ici à la limite du dispositif, concède Daniel Roger. Nous ne pouvons agir que pour les ressortissants de l'espace communautaire ou les réfugiés ayant obtenu un titre de séjour. Bien qu'ils puissent être d'origine rome, les Albanais sont donc censés être pris en charge par l'État. Une partie des habitants du Ramier ont bénéficié d'un hébergement du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, pendant que les autres ont été mis à l'abri de façon temporaire à l'hôtel, avant de se retrouver de nouveau à la rue. Les campements précaires existants à Toulouse sont-ils donc tous peuplés de migrants extra-communautaires? C'est pas simple. Chemin de Malpère sur un vaste terrain vague appartenant à l'établissement public foncier local de Toulouse, métropole. Débarraquement de briques et de brocs s'entassent depuis près d'un an. Au milieu des carcasses de voitures et de débris divers, les enfants jouent pendant que leurs parents discutent avec Geneviève Molina, une bénévole de Médecins du Monde. La dizaine de personnes avec qui le journaliste a pu discuter sur la quarantaine vivant dans le camp sont d'origine rome et viennent du centre de la Roumanie. Certains avaient bénéficié de l'accompagnement de la mairie avant d'être expulsés de leurs appartements. Et une partie d'entre eux s'est vue adresser une OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, par la préfecture en avril dernier. À la demande de l'EPFL, l'établissement public foncier local, émanation des collectivités territoriales, un avis d'expulsion du terrain a été prononcé par la justice administrative. C'est l'autre limite à l'action de la mairie. Lorsque les personnes sont sous le coup d'une OQTF, elles ne peuvent plus être prises en charge. Cette stratégie consiste à espérer que les personnes évacuent le campement d'elles-mêmes, souligne Sylvain Laspalès, l'avocat des habitants du chemin de Malpère. Alors on se demande quelle piste pour faire encore mieux à Toulouse, vraiment. Quelle piste pour faire encore mieux à Toulouse? Eh bien, d'abord agir à l'échelle de la métropole. Toulouse agit en mobilisant son parc de logements intramuros pour donner davantage d'ampleur à ses actions. L'enjeu serait d'élargir le dispositif à l'échelle de l'agglomération. Le processus est enclenché, mais il s'annonce long. La métropole de Nantes est pour l'heure la seule en France à avoir adopté un dispositif intercommunal coordonné entre tous les acteurs, État, communes, départements et métropoles. Toutes les communes participent financièrement à hauteur de leur population, même si elles ne sont pas confrontées à des campements sur leur sol, explique Marie-Hélène Nedelec, la vice-présidente chargée des questions migratoires et de l'hébergement spécifique à la métropole Nous pouvons par ailleurs mobiliser des logements sociaux sur le territoire de 24 communes. À Toulouse, le collectif d'entraide et d'innovation sociale, le CEDIS donc, n'hésite pas à engager des actions, comme des réquisitions et ouverture de squats, lorsque la situation est bloquée. Avec d'autres associations, dont le collectif immobilier Sans Frontières, il a menacé le PFL de Toulouse, métropole, d'ouvrir des logements vacants gérés par l'organisme, afin d'y installer des sans-abri. Alors, mis devant le fait accompli, le PFL a accepté de dédier 20 nouveaux logements vacants à l'hébergement temporaire. Reste désormais à convaincre l'organisme et les mairies de mobiliser des logements vacants sur l'ensemble des communes, ajoute Thomas Couderette. Selon Daniel Roger, près de 500 places complémentaires pourraient être mobilisées sans difficulté à l'échelle de Toulouse Métropole. On pourrait aussi intensifier la coopération entre acteurs. Le dialogue entre la mairie, les associations de terrain et la préfecture s'établit de façon informelle. À Strasbourg, à l'inverse, la ville a pris le parti d'associer dans des structures dédiées les acteurs publics, de terrain, les riverains et les premiers concernés, c'est-à-dire les Roms migrants. Tous les deux mois, un conseil de vie sociale permet aux travailleurs sociaux et aux bénéficiaires de faire le point sur les besoins et améliorations à apporter aux espaces d'insertion, indique l'adjointe au maire Marie-Dominique Dressé. Nous rappelons aussi des règles en matière d'hygiène et d'installation dangereuse. Ça a convaincu certaines personnes de trouver des alternatives au trafic de la ferraille. À Rézé, dans la banlieue nantaise, une conférence citoyenne réunissant les comités de quartier, les associations et les riverains a vu le jour en 2015. Un habitant de Bidonville est venu y expliquer ses besoins, les raisons de sa venue en France. Il y avait un riverain très véhément, et ce processus a apaisé le climat, estime le premier adjoint au maire Christian Brochard. Et on pourrait aussi diversifier l'hébergement. Toulouse a fait le choix de proposer des logements diffus, c'est-à-dire répartis dans le tissu urbain. Les villes de Strasbourg ou de Rézé, elles, ont opté pour la mise aux dispositions d'espaces temporaires d'insertion, caravanes, mobilhomes, complétés par un accompagnement vers l'emploi et le logement. Des campements illégaux ont mis 20 ans à se constituer pour atteindre 500 personnes, explique l'adjointe strasbourgeoise. Il s'agissait de Roms hongrois. Avec nos espaces d'insertion, nous avons permis à 200 personnes de trouver un emploi et 150 foyers d'avoir accès au logement social. Les nouvelles familles arrivantes suivent notre programme d'accompagnement ou repartent. Des occupants du campement toulousain de Malpère sont favorables au village d'insertion temporaire. Les multiplier n'est pas forcément la solution, mais ils peuvent correspondre à certains besoins. Car se retrouver dans un appartement fermé peut perturber celui qui vit dehors depuis des années, reconnaît Gaëtan Cognard de France Horizon Occitanie. Pour Manon Fillonneau de Roms Europe, des solutions d'hébergement temporaire restent à inventer pour les bénéficiaires qui n'entrent pas dans les cases prédéfinies par les pouvoirs publics. Certains n'ont pas le projet de s'intégrer au sens où nous l'entendons en France, à savoir avoir un CDI et vivre ici à temps plein. Oui, ça demande réflexion. Pour Thomas Couderette du CEDIS, la création de logements passerelles, des logements temporaires, sans accompagnement, pour les personnes autonomes en attente de leur logement social. Ces logements passerelles permettraient de libérer des places dans le dispositif de la mairie de Toulouse. La question du sort des Albanais, qui sont environ 200 à Toulouse, selon Médecins du Monde, reste cependant entière. Leurs arrivées en France augmentent D'après Le Monde, la demande d'asile albanaise a grimpé de 53% depuis début 2019, avec près de 3 400 demandes. 8,4% obtiennent l'asile. De nombreux refusés restent sur le territoire sans avoir le droit de travailler. Sur ce point, la mairie de Toulouse renvoie l'État à ses responsabilités. La mairie a lancé le 24 avril un dernier appel avec 12 autres édiles pour la création de places d'hébergement de plus par l'État. 4 800 à 5 400 personnes sont en situation précaire d'hébergement à Toulouse. Et pour toute la Haute-Garonne, il y a seulement 1 050 places.